Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le jeudi 4 décembre et aujourd'hui on va faire un bon dossier sur l'élevage en France avec notamment suite à ces images que vous avez peut-être vues dans le Doubs des vaches qui ont été euthanasiées pour cause de présence de la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. On va donc essayer de comprendre un peu mieux le sens de ces mots. On va parler aussi de la peste porcine africaine, mais qui est proche de nous puisqu'elle se situe en Catalogne, elle qui menace plutôt les porcs. On va parler d'une nouvelle filière agricole dans le Gard avec une nouvelle marque qui s'appelle Pastre, où il sera la question de brebis, d'agneaux et de moutons en bonne santé. Et puis enfin, on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté du Rassemblement National, de la liberté d'expression et des manifestations contre le régime de Benjamin Netanyahou en Israël. On commence donc avec cette actualité qui a fait un peu le tour aussi des médias du jour, des gaz lacrymogènes, des tirs de LBD contre des gens qui s'opposaient à l'abattage de vaches vaccinées contre la dermatose. C'est quand même 175 gendarmes qui ont été déployés autour d'une ferme dans le Doubs à cause d'un rassemblement d'agriculteurs et de leurs voisins qui s'étaient tenus pour empêcher donc l'abattage des 82 vaches de la ferme. Une seule de ces vaches était atteinte de dermatose nodulaire contagieuse, la DNC. On est traité pire que des terroristes juste parce qu'on veut défendre nos vaches, expliquait avec colère Céline Lhomme, donc, qui est donc la conjointe du fermier, propriétaire de cette ferme avec 82 vaches. Des vaches qui ont été abattues donc ce mardi 2 décembre. On est dans une ferme à Pouillé, français, dans le Doubs, dans l'est de la France. Une de ces vaches a donc été bien déclarée porteuse de cette DNC. C'est une maladie virale, non transmissible aux humains, et qui n'affecte donc que les bovins. La situation est incompréhensible pour cette famille, d'autant plus que toutes leurs vaches ont été vaccinées contre la DNC, c'était le 22 octobre dernier. Un nodule, donc, qui est le symptôme de cette maladie, est apparu sur une seule de leurs vaches, donc le 28 novembre, 36 jours après la vaccination, ça peut arriver. Et au lendemain, donc, les prélèvements ont été envoyés au service vétérinaire, c'était bien positif à la DNC. Et pourtant, si on lit sur le site du ministère de l'Agriculture, les animaux vaccinés sont pleinement protégés 21 jours après l'injection d'une dose de vaccin. Donc malgré les nodules, pour eux, cette vache était protégée et n'allait pas transmettre la maladie. L'agriculteur concerné, donc, qui s'appelle Cédric Lhomme, avait à l'époque fait une pétition pour demander à ce qu'on fasse de sa ferme une ferme test, justement, proposer un petit peu une collaboration avec les services de l'État pour voir comment la maladie évoluait en cas de vaccination. Vous savez, on peut être vacciné et malgré tout malade, hein, le Covid nous l'a prouvé, mais dans des formes qui sont effectivement souvent moins virales, enfin moins contagieuses par exemple. La vache atteinte de DNC a réagi bien aux antibiotiques, soulignait la famille d'ailleurs les semaines avant, mais les services de l'État ont décidé, sans aucune concertation, de tuer 82 vaches vaccinées depuis plus d'un mois. L'État refuse toute contre-expertise, refuse de passer la ferme en test expérimental, et ce, donc, vous l'avez compris, malgré une mobilisation sans précédent, hein, plus de 300 personnes, beaucoup d'agriculteurs du coin, sont venus soutenir la famille dès ce mardi matin. Ils entendaient bien bloquer l'abattage des vaches dans l'attente justement de l'examen d'un référé liberté qui a été déposé par deux syndicats agricoles, à savoir la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale. Eh bien, les services vétérinaires se sont donc pointés le mardi matin sur la ferme. Ils ont été accueillis par des jets de boue. Et face à cette mobilisation, donc, la préfecture a envoyé 175 gendarmes. Les forces de l'ordre ont largement utilisé leur gaz lacrymogène et recouru aussi à des tirs de flashball, enfin ce qu'on appelle maintenant les LBD. Les forces de l'ordre ont effectué un tir défensif de LBD face à des tracteurs en mouvement vers les gendarmes, mais aucune personne n'a été blessée, a précisé d'ailleurs la préfecture. Et de toute façon, au tribunal administratif où avait été déposé ce référé, l'ordre a finalement été donné d'abattre le troupeau donc en début d'après-midi. Juste après cette annonce, eh bien, les services vétérinaires sont donc pénétrés dans la ferme et ont démarré l'euthanasie des 82 vaches. Dans les minutes qu'ont suivi la décision, l'agriculteur et sa femme présents se sont effondrés sur place devant leur soutien. On a perdu, on a tout perdu, a dit-elle. J'espère que plus jamais un seul agriculteur n'aura à subir ce qu'on subit aujourd'hui. Alors cette épidémie de dermatose nodulaire, depuis le début, c'était en juin 2025, plus de 3000 animaux ont ainsi été tués. La stratégie, c'est donc celle qui est mise en œuvre par le gouvernement, c'est, ils appellent ça le dépeuplement. C'est-à-dire que dès qu'on décèle un cas dans un troupeau, on tue l'ensemble du troupeau. Ça, c'est la première décision. La deuxième, c'est l'arrêt des mouvements et la vaccination obligatoire dans un périmètre de 50 km autour donc, des cas qui ont été détectés. Malgré la multiplication des abattages totaux donc de tous les cheptels entiers, ces derniers mois, les éleveurs, malgré tout, redoublent d'inquiétude dans plusieurs départements. Si on regarde où on en est aujourd'hui au niveau de cette fameuse DNC, il y a 107 foyers détectés en France au 30 novembre de cette année, principalement dans l'Est, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, un petit peu le Rhône et le Jura, et aussi beaucoup, beaucoup dans les Pyrénées-Orientales. En tout, ça concerne 72 élevages. Le statut indemne, c'est ce qui est au cœur de cette affaire. Ce statut indemne, c'est un statut donc légal qui conditionne le commerce des animaux et de leurs produits, donc le lait et la viande. Et ça, c'est au niveau européen et international. Alors toutes les zones dont je viens vous parler, qui sont aujourd'hui placées en zone réglementée sur cette dermatose nodulaire, contagieuse, dès qu'il y a un cas, la zone perd le statut indemne et donc ne peuvent plus exporter aucun produit. Et cette zone fait 50 km autour du foyer détecté. Donc pour les autorités, qui sont soutenues d'ailleurs dans leur stratégie par la FNSEA, il s'agit surtout de circonscrire la maladie pour épargner les troupeaux voisins non contaminés, mais aussi pour ne pas condamner les filières bovines et laitières qui font beaucoup, beaucoup d'exportations autour. C'est donc plutôt pas forcément une solution qui est basée sur la réalité biologique là, des troupeaux et des fermes, mais plutôt sur la législation qui fait que s'il y avait des cas et qu'ils n'abattaient pas tout le troupeau, eh bien, les exportateurs de lait, etc., ne pourraient plus travailler autour. Ça, en tout cas, c'est la vision défendue par l'État et donc, vous l'avez compris, aussi par la FNSEA. Mais ce n'est pas du tout l'avis, par exemple, de Stéphane Gallet, qui est à la Confédération paysanne. Eux militent justement pour une autre stratégie, celle de l'abattage partiel et ciblé. Les décisions obéissent à des critères strictement économiques. C'est une gestion dictée par des accords commerciaux. Les paysans et paysannes ne sont pas des variables d'ajustement au service des échanges internationaux, dit le syndicat. Ce syndicat, donc la Confédération paysanne, réclame depuis des mois l'élargissement des campagnes de vaccination dans les régions voisines des foyers, qui sont pour l'instant indemnes. Si on regarde un petit peu ce qui se dit justement au niveau scientifique, c'est un article de Bastamag là, qui fait le point. Une étude date de 2016, elle a été réalisée dans les Balkans, suite à l'apparition là aussi de la DNC. Eh bien, c'est l'autorité européenne de sécurité des aliments qui estime dans cette étude que la vaccination étendue, en plus de restrictions de déplacement, est le principal levier qui va permettre de freiner puis de stopper la maladie. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas la stratégie du gouvernement français qui s'y refuse. Et donc, lorsqu'une campagne vaccinale est lancée dans une zone, la réglementation européenne interdit les mouvements d'animaux et va restreindre aussi les ventes de bétail jusqu'à 14 mois. Donc, ça peut, le résultat de tout cela, c'est que des zones qui ne sont pas concernées par la maladie, dans ces zones, les éleveurs ne peuvent pas aujourd'hui avoir accès au vaccin pour leurs animaux. Et pourtant, ces éleveurs aimeraient bien protéger les élevages pour l'hiver, et surtout en prévision de la probable réémergence du virus au printemps. Puisqu'en effet, cette maladie se transmet par piqûres d'insectes vecteurs, par exemple les temps et les mouches piqueuses, qui sont plus nombreux quand les températures augmentent, vous le savez. Alors, une motion a été portée le 25 novembre, là, c'était à la Chambre d'agriculture du Doubs et du territoire de Belfort, pour élargir cette zone vaccinale, justement de manière volontaire et à titre préventif, hein, de ne pas attendre d'avoir des cas. Ils voulaient l'étendre à l'ensemble des départements du massif jurassien. Donc les élus de la Confédération paysanne et de la Coordination rurale ont voté pour. Eh bien, la FDSEA, qui sont eux majoritaires à la Chambre, ont voté contre ou se sont abstenus. Où est la solidarité entre les élevages du massif ? La stratégie actuelle renforce les peurs et les mouvements de panique, se déplorait le coporte-parole de la Confédération paysanne du Doubs, Laurence Lyonnais-Meslob. Cette inquiétude est donc d'autant plus forte que, si on revient à le cas de cette ferme, de Cédric Lhomme, elle avait respecté toutes les règles suite à la vaccination du troupeau. Il explique qu'ils avaient donc des animaux vaccinés depuis 36 jours, les élevages autour aussi étaient vaccinés, et en gros, on leur dit que ça ne suffit toujours pas. Il faudrait finalement jusqu'à 45 jours pour atteindre l'immunité, confie la porte-parole de la Confédération paysanne. Et pour elle, ce protocole, donc, qui est défendu bec et ongle par le ministère, ne fonctionne pas. Et de plus, il est de plus en plus inapplicable. Ainsi, cet abattage qui a eu lieu sur cette ferme dans le Doubs ne peut qu'accentuer la défiance. Normalement, les éleveurs, en cas de symptômes, doivent prévenir les vétérinaires qui vont ensuite réaliser un prélèvement et placer l'élevage sous surveillance pendant 2 jours en attendant les résultats. Eh bien, à cause de ce qui vient de se passer, les gens risquent de ne plus rien dire en cas de suspicion. L'actuelle ministre de la Culture, Annie Genevard, qui est elle aussi d'ailleurs origine du Doubs, n'a pour l'instant pas réagi aux événements de ce mardi, ni d'ailleurs répondu aux appels de la famille Lhomme.
Je fais « What ?» D'où ? Mais d'où ça sort, quoi ? D'où ça sort ?
On part en Espagne avec une autre, comment on dit déjà, une c'est pas une épidémie, c'est une zoonose, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Une épizoo aussi, voilà, ça me revient. C'est dans Reporter cette fois-ci que cette enquête est menée, et ça s'intéresse à des cas de peste porcine africaine. Ceux-ci se multiplient de l'autre côté de la frontière, en Catalogne. L'armée a même été envoyée sur place pour tenter de contenir la propagation et protéger un secteur clé de l'économie espagnole. C'est au moins depuis le 28 novembre que 9 cas de peste porcine africaine, la PPA, ont été confirmés sur des sangliers qui ont été retrouvés morts dans un parc, le parc de Collserola, à côté de Barcelone. C'est le plus grand parc naturel de la région, depuis son accès a été fermé, et une course contre la montre s'engage pour limiter donc la propagation de cette peste porcine africaine. Ainsi, plus d'une centaine de membres de l'unité militaire d'urgence espagnole ont été déployés sur place, un genre de GIGN, en appui aux quelques 300 agents catalans déjà sur le terrain. L'Union européenne aussi a envoyé une équipe de vétérinaires spécialisés en renfort et un périmètre de sécurité de 20 km mis en place autour de cette zone. Les prochains jours seront cruciaux, expliquait José Ángel Barazona, le coordinateur au Centre de surveillance sanitaire vétérinaire, le VISAVET, à l'Université de Madrid. On va voir, dit-il, si on est capable de contenir ce foyer ou si malheureusement le virus s'est propagé au-delà de la zone. Si c'est le cas, le problème sera alors beaucoup plus grave et sérieux. Pour l'heure, en tout cas, tous les cas qui ont été confirmés et sous enquête proviennent bien de ce parc de Collserola, le parc régional. Des analyses ont aussi été menées dans 39 exploitations de porcs aux alentours. Elles sont pour l'instant négatives. Cette PPA, il faut le rappeler et préciser, elle est inoffensive pour les humains, mais très contagieuse chez les porcs et les sangliers, et on peut y observer parfois un taux de mortalité jusqu'à 100%, avec jusqu'à ce jour aucun vaccin qui n'existe. Donc une vraie catastrophe si ça venait à se développer dans les élevages porcins. Tout cela n'est pas une grande surprise dans la mesure où on a déjà vu des cas similaires apparaître en Belgique, en Suède ou encore à Rome. La question était juste de savoir quand et où cela allait se passer, explique donc le spécialiste José Barazona. Depuis la découverte de ces premiers cas, les peurs sont immenses en Espagne, qui est le troisième plus grand producteur du monde de viande de porc et de ses dérivés, charcuterie évidemment. Le pays exporte ainsi chaque année presque 3 millions de tonnes vers plus d'une centaine de pays. Certains de ces pays, d'ailleurs le Brésil, le Canada ou les États-Unis, un des gros marchés, ont déjà depuis, excusez-moi, bien suspendu toutes les importations porcines provenant d'Espagne. D'autres pays comme la Chine, qui est le premier importateur de porc catalan, appliquent la restriction uniquement pour ce qui vient de la région de Barcelone. Du côté français, on recommande à ses aux ressortissants de ne plus rapporter d'Espagne des produits à base de porc afin de limiter la transmission du virus. Donc si vous aviez prévu d'aller choper un petit jambon à la frontière, attention quand même à tout ça. Même si je vous le rappelle, hein, c'est pas dangereux pour les humains, mais bon, un virus, ça se transmet très très rapidement et ça peut se propager par les sangliers. En Catalogne, en tout cas, cette filière porcine représente à elle seule près de 40% de la production agricole régionale, ce qui génère environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le gouvernement catalan estime déjà que les pertes pourraient atteindre jusqu'à 1 milliard d'euros. Donc on est déjà dans une grave crise et qui sera très longue, expliqué Oriol Rovira, qui est éleveur, coordinateur régional de l'Union des agriculteurs de Catalogne. Il rappelle aussi que le blocage des exportations peut durer plusieurs mois en raison de restrictions qui sont liées à la forte contagiosité de cette maladie. Et d'ailleurs, cet éleveur se questionne aussi sur les mesures de prévention. « Nous avons manifesté, dit-il à plusieurs reprises, pour exiger une meilleure gestion de la faune sauvage, notamment un plus grand contrôle de la surpopulation de sangliers. » Mais il n'y a eu aucune action de la part des gouvernements, explique-t-il. Je pense que si des mesures avaient été prises, nous aurions pu au moins réduire les risques. Une enquête est en tout cas toujours en cours sur l'origine du foyer, mais les autorités espagnoles suspectent que de la nourriture abandonnée et contaminée ne soit à l'origine du retour de cette peste porcine africaine.
L'air pur, l'eau pure à une terre saine. De ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
Allez, des bêtes en pleine santé, on leur souhaite. C'est dans les colonnes d'Objectif Gare que j'ai lu ça ce matin, à savoir la présentation d'une nouvelle marque qui s'appelle Pastre par le syndicat Ovin du Gard. C'était ce vendredi 28 novembre, donc une présentation officielle pour une nouvelle marque collective qui est donc destinée à identifier l'agneau né et élevé dans le département du Gard. 20 éleveurs sont déjà partie prenante de ce projet. La présentation a été faite par les deux éleveurs d'ovins, Pierrick Garmat, qui est à Valrogue, et Thibaut Dombry, pardon, qui est président du syndicat et éleveur de Mérinos d'Arles. Il est sur la commune de Maine, plus vers de l'autre côté du Gard, vers Avignon. Ce sont les deux éleveurs qui ont présenté officiellement cette marque Pastre. C'était aux masses des agriculteurs vendredi dernier. L'initiative est portée par le syndicat Ovin du Gard. Elle a pour but de constituer un véritable outil collectif de développement en fédérant donc les professionnels autour d'un objectif commun. Cette appellation affirme un ancrage territorial et une volonté de rassembler une filière fragilisée. La démarche revêt donc une dimension politique, vous l'aurez compris, puisque Pastre arrive à un moment où l'élevage ovin doit se défendre face à la prédation du loup qui est avérée sur tout le territoire, le recul du nombre de troupeaux, mais également la crise agricole qui freine les installations de jeunes éleveurs. Cette marque veut donc apporter un vent d'espoir en montrant qu'un projet collectif structuré peut encore fédérer des éleveurs de races diverses sur des systèmes extensifs ou bien semi-extensifs, et ce, allant des Cévennes aux zones périurbaines en éco-pâturage. Ils sont 280 éleveurs dans le Gard de la filière ovine, dont 180 avec des troupeaux de plus de 100 brebis, près de 45 000 têtes en tout. Une trentaine de ces éleveurs suivent donc ce concept de très près. Environ 52 000 agneaux naissent chaque année dans le Gard. Et je vous le disais, du Piémont Cévenol aux zones littorales, en passant par les Garrigoulets costières, l'élevage entretient les paysages, limite les risques d'incendie et maintient des espaces ouverts accessibles à la randonnée, la chasse ou le tourisme vert. C'est en tout cas ce que vantent les bienfaits que vantent donc les instigateurs de cette nouvelle marque. Malgré ce rôle, cette filière se heurte à la sécheresse récurrente, aux attaques du loup et à des prix tirés vers le bas par des importations ainsi qu'au manque d'installation des jeunes bergers. L'objectif affiché donc de cette marque, c'est d'offrir un repère pour les consommateurs, mais aussi de garantir un revenu plus juste aux éleveurs gardois. Un exemple, dans les supermarchés, l'agneau qui vient de l'étranger se vend environ entre 9 et 10 euros le kilo, quand de l'agneau local, lui, va plutôt se situer entre 16 et 18 euros le kilo. Alors la marque veut justement essayer d'expliquer cette différence en mettant en avant un élevage local, avec des pratiques encadrées, et surtout un réseau d'abattoirs de proximité à Alès ou au Vigan, ces abattoirs qui sont indispensables à une identité gardoise. À savoir que les éleveurs qui sont plutôt dans le sud du Gard, eux, vont sur l'abattoir de Tarascon, qui n'est donc pas dans le Gard. Alors, un cahier des charges, évidemment, encadre cette marque. Je vous passe pas tout en revue, mais les animaux devront être nés et élevés dans le Gard. La ration de base de nourriture, donc, c'est de l'herbe, du fourrage, des ressources naturelles du territoire, par exemple les glands ou les châtaignes. Et si on doit acheter de l'aliment, évidemment, garanti sans OGM. Il y a aussi beaucoup de préconisations sur les espaces de vie, les bâtiments, les pâtures, etc. Et en termes de commercialisation, eh bien, le syndicat va fournir à ceux qui veulent participer à la marque un kit de bienvenue, du scotch, de marquage, des autocollants, des étiquettes, des affiches, des panneaux, tout ça pour faire donc de la visibilité. L'ensemble vise pour les consommateurs une identification immédiate, quel que soit le point de vente, que ce soit au Mas des Grès agriculteurs, mais aussi sur les marchés, les boucheries traditionnelles ou bien les magasins spécialisés. Et enfin, un contrôle annuel sera prévu chez chaque berger adhérent, portant sur le bien-être animal, la conformité au cahier des charges, la qualité et la quantité de produits mis sur le marché sous ce logo qui s'appelle donc Pastre. Et vous retrouverez, si vous le souhaitez, toutes les informations donc dans cet article qui vient d'être publié dans les colonnes de Objectif Gard. Pardon. Allez, on passe le reste de l'actualité en revue au niveau national. Dans le cas, les dossiers autour de la loi Duplomb, vous savez, cette loi qui réautorise en partie certains pesticides interdits, un médecin vient d'être convoqué à la gendarmerie pour un post Facebook. C'était donc hier, le 3 décembre, un médecin généraliste de la Charente a été convoqué à sa gendarmerie, donc à Angoulême, en audition libre, hein, pour avoir dénoncé sur les réseaux sociaux l'obscurantisme de Caroline Colombier, qui est une députée et Rassemblement National, et ce, donc, en plein débat, sur la loi Duplomb, c'était pendant l'été. Donc il y a maintenant plus de 4 mois. Il avait écrit, donc ce docteur s'appelle Louis-Adrien Delarue, il avait écrit en réaction, donc un commentaire sur un Facebook, « Heureusement que le ridicule ne tue pas, vous seriez morte 2 fois dans la même interview ». Alors, il réagissait à des propos de cette parlementaire RN sur l'acétamipride. C'est un dangereux pesticide hein, que le projet de loi Duplomb entendait réautoriser, avant que finalement le Conseil constitutionnel ne l'en empêche. Donc les arguments, en tout cas juridiques, sont plutôt du côté du médecin. Et donc, il réagissait à des contre-vérités avancées par cette députée RN qui, elle, était favorable donc à la loi Duplomb. Eh bien, cet élu de la 3e circonscription donc, de Charente a déposé plainte pour outrage envers un agent dépositaire de l'autorité publique. Il a dit « Heureusement que le ridicule ne tue pas, vous seriez morte 2 fois ». Alors ça, c'est un outrage pour elle. Et donc, le médecin a été convoqué pour une audition libre avec prise d'empreinte quand même. Il explique « En pleine semaine de travail, au milieu de mes consultations et de mes visites médicales, je suis convoqué à la gendarmerie pour avoir fait mon travail de médecin et de citoyen, à savoir dénoncer les mensonges d'une élue de la République. » Donc il enfonce le clou, il la traite même de menteuse. Ça, c'était ses réactions, à savoir que ce médecin est une figure un peu médiatisée puisqu'il est le porte-voix du collectif Alerte Médecins Pesticides. Allez voir leur page sur Facebook. Louis-Adrien Delarue, donc, il dénonce là, dans cette petite mésaventure qui lui arrive, une procédure bâillon pour l'intimider et pour décourager les citoyens à s'emparer du débat public. Ce médecin avait d'ailleurs été déjà croisé par les journalistes de Reporters, c'était le mois dernier, le 17 novembre, lors du blocage de cette usine du géant agrochimique BASF dont je vous avais parlé, un blocage qui visait à dénoncer la production d'un pesticide interdit en Europe, mais bien présent sur le site, ce qui est illégal. Il avait donc participé à cette action. Si on s'intéresse par contre à la députée donc RN Caroline Colombier, c'est une militante des premières heures hein, du Front National, elle a été pointée du doigt à 2 reprises par le média Les Jours pour sa présence dans des groupes Facebook où s'échangent des messages violents, racistes, antisémites, islamophobes et homophobes. Fin septembre, une députée Les Républicains, qui s'appelle Virginie Duby-Miller, elle, sinon, avait porté plainte contre des citoyens après un autre post Instagram contre la loi Duplomb. Et voilà, ils n'acceptent pas trop de se faire contredire, je crois, sur les réseaux sociaux. Bravo, bravo pour les défenseurs de la liberté d'expression.
C'est toujours sur moi que ça tombe, les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste.
Calimero avec sa coquille d'œuf sur la tête, je trouvais que c'était de mise pour parler de l'affaire de l'œuf et de Jordan Bardella. Le procès de ce septuagénaire qui a écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella est finalement renvoyé au 9 janvier. je vous en parlais mardi dernier, il devait être jugé en comparution immédiate. Ce septuagénaire était en état de récidive légale puisqu'il avait déjà commis sur la tête de M. Zemmour et sur un bus de campagne de Marine Le Pen. Donc il était en comparution immédiate à la demande du parquet de Montauban, mais il a demandé un délai pour préparer sa défense et il a déclaré à l'audience « Je m'excuse auprès de M. Bardella, c'est un geste idiot que j'ai fait ». Dans l'attente de son procès, donc, le prévenu restera placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Jordan Bardella et également de se rendre dans une réunion publique du RN. Ce sont des mesures de sécurité dont l'avocat du président du Rassemblement National et le ministère public avaient demandé le maintien. Samedi dernier, je vous le rappelle, il avait été placé en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Oui, un œuf, ça va, c'est pas encore trop violent. Et Jordan Bardella s'était déjà pris de la farine la semaine précédente. Mardi matin, l'avocate du prévenu a évoqué donc un acte qui était motivé par la volonté d'éveiller les consciences. Et elle a ajouté « Il y a 10 ans, nous étions Charlie. Aujourd'hui, nous sommes Jean-Paul hein, », faisant référence au prénom de son prévenu. Lundi, le parquet de Montauban avait requis donc, le placement en détention prévisoire de ce grand-père, hein, suite à une garde à vue prolongée de 24 heures le dimanche. Mais finalement, le juge des libertés et de la détention n'a pas suivi les réquisitions du parquet. Et donc, l'homme a pu comparaître libre mardi matin. Je vous le disais, il avait déjà été condamné pour des faits similaires en juillet 2022, puisqu'il a écrasé un œuf sur la tête d'Éric Zemmour, à l'époque candidat de reconquête à la présidentielle en campagne, donc dans la ville où habite ce retraité, à Moissac. Ça lui avait coûté une amende de 500 euros avec sursis, et il avait expliqué d'ailleurs s'opposer fermement au Rassemblement National, en le qualifiant de parti avec un programme validiste, car cet homme est le père d'un enfant autiste, et il estime que justement la politique à l'égard des handicapés, notamment du Rassemblement National, est fortement excluante. Si on revient sur Jordan Bardella, hein, qui fait le tour des plateaux pour parler de son agression, il a déclaré récemment, je crois, sur les colonnes de CNews, « À chaque fois qu'un responsable politique français, qu'il soit de droite ou de gauche ou du centre, est pris à partie, j'ai toujours pris position, je me suis toujours exprimé pour prendre sa défense parce que je ne supporte pas la violence. » Alors à chaque fois, pas vraiment, puisque là aussi aujourd'hui, des internautes fouillent et trouvent toujours des petites perles, hein, notamment sur le réseau X, anciennement Twitter. C'est un post de Jordan Bardella qui date de 2017 qui refait surface. Et il avait écrit justement suite au fait que Emmanuel Macron se soit lui aussi pris un jet d'œuf. Et il avait dit « Quoi de neuf Emmanuel Macron, neuf N-œuf ». Donc une petite pique d'humour, pas vraiment des mots de soutien. À l'époque, Jordan Bardella était conseiller régional d'Île-de-France et membre de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Cette publication vient donc contredire ses propos et elle est toujours visible sur son compte X.
Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste.
On termine, dernière nouvelle avec un petit bilan et un petit récap aussi de ce qui se passe en Israël de manière quasiment quotidienne. On en parle peu dans les médias, mais des manifestations ont lieu tous les jours contre Benjamin Netanyahou et sa politique. Ainsi, c'était hier des Juifs et des Palestiniens ensemble qui ont manifesté une nouvelle fois et en nombre. Hein, on voit les vidéos sur pas mal de réseaux sociaux, des milliers de personnes dans les rues. Ça a fait suite au meurtre d'un jeune Palestinien de 15 ans pour dénoncer la police de Netanyahou qui encourage ou ne fait rien contre le crime organisé en milieu palestinien. Pour le commentateur, cette police est trop occupée à mettre en prison les opposants à Netanyahou. Il fait référence à une manifestante qui a d'ailleurs commencé une grève de la faim, qui est aujourd'hui en prison. On peut parler aussi du 1er décembre, la date où a lieu une manifestation au tribunal, devant le tribunal. C'était le 59e jour du procès pour corruption de Netanyahou. Il a encore réussi à se faire excuser de la présence au procès pour faire traîner les choses. On peut parler du 30 novembre, où une manifestation avait lieu devant le domicile du président Herzog, à qui justement Netanyahou avait demandé la grâce. Mais alors ce qui est drôle, c'est qu'il a demandé grâce avant même que les juges n'aient donné leur résultat. Il avouait donc un petit peu ainsi à mi-mot ses crimes, et la foule scandait alors devant la maison donc du président Herzog. Si tu amnisties Netanyahou, tu finiras en prison avec lui. Dans ces manifestations, on peut retrouver, entre autres, hein, souvent, parmi les citoyens, un mouvement qui s'appelle Standing Together, et qui était justement réuni ce week-end à Haïfa, en Israël. 1500 personnes juives ou palestiniennes étaient réunies ensemble, donc à cette convention nationale de Standing Together, ça veut dire debout ensemble, une convention pour fêter le 10e anniversaire de ce mouvement, un mouvement israélien qui vise justement à rapprocher les Palestiniens d'Israël et les Juifs israéliens, à penser l'avenir ensemble et donc à s'opposer, vous l'aurez compris, aussi à la guerre et au massacre et le génocide en cours à Gaza. C'est le plus grand mouvement populaire arabo-juif d'Israël. Il a été fondé en 2015 et comptait environ 5000 membres en avril 2024, beaucoup plus aujourd'hui. Le mouvement s'oppose à l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Il organise des milices, entre guillemets, de protection des paysans palestiniens en Cisjordanie ou au Negev contre les violences des colons juifs d'extrême droite qui viennent les attaquer pendant les récoltes ou tenter même des fois d'arracher, par exemple, les oliviers. Il s'oppose aussi aux violences de l'armée israélienne contre la population et au néolibéralisme. Ce mouvement n'est pas sans limite, mais depuis le début de la guerre donc, et du génocide à Gaza, à partir d'octobre 2023, il joue un rôle grossissant au fil du temps et de plus en plus de premier plan dans les manifestations contre la guerre et pour la destitution de Netanyahou.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Vous le savez maintenant, je suis un grand mélomane et donc c'est encore une rubrique nécro-musicale que je vous propose aujourd'hui pour célébrer la vie et l'œuvre et malheureusement le décès récent de Steve Cropper, le guitariste américain, figure emblématique de la soul music, un membre fondateur de Booker T and the MGs, un des piliers aussi du label Stax qui œuvrait à Memphis. Il est décédé à l'âge de 84 ans, chez lui, à Nashville. Ça, c'est pas mal. Il a, par exemple, été co-auteur. Hein, c'est lui qui a co-écrit avec Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Il a participé aux Blues Brothers hein, et le mouvement revival de la soul dans les années 80, en laissant derrière lui un héritage musical exceptionnel. Guitariste, mais donc aussi compositeur. Il a participé à l'écriture de grand nombre des tubes de cette période de la soul music. Et après, il a continué une carrière... Jusqu'à là, il jouait encore sur des scènes il y a très peu de temps. Steve Cropper était né à Dora, dans le Missouri, en 1941. Il a déménagé à Memphis avec sa famille à l'âge de 9 ans et s'est donc fait connaître avec le groupe de studio, hein, le groupe de session The Marquees. Puis il a formé Booker T and the MGs avec Booker T au clavier. C'était le groupe résident dans les studios Stax de la ville, c'était en 1962. Et c'est donc ces musiciens que vous entendez d'ailleurs grand nombre de tubes de Stax de l'époque, puisque souvent, les aspirants à la gloire n'avaient juste quelques paroles et une jolie voix, et puis ils arrivaient dans le studio et ils jouaient avec les musiciens, et ensuite on sortait un 45 tours pour voir si ça marchait ou pas à la radio. Le groupe Booker T and the MGs a pu jouer sur des hits de Wilson Pickett, Bill Withers, Sam & Dave, Carla Thomas, Rufus Thomas, Johnny Taylor, Albert King et bien d'autres, Otis Redding je l'ai dit, Green Onion, c'est un morceau très connu des Booker T. Et d'ailleurs, le groupe a été intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame en 1992 et Steve Cropper, en 1996, nommé meilleur guitariste du monde vivant par le magazine Mojo. Je vous ai retrouvé là pour lui rendre hommage une version studio. C'est la première prise donc des bandes qui n'ont pas été sorties de justement The Dock of the Bay, une balade, enfin un morceau vraiment inclassable et éternel qui a d'ailleurs permis à Steve Cropper de recevoir le Grammy Award de la meilleure chanson Rhythm and Blues en 1968. Et on écoute donc la première prise. Donc Steve Cropper, je vous le disais, a co-écrit le morceau en jouant la guitare. C'est lui qui a proposé ça à Otis Redding, qui avait les paroles. Et on l'entend d'ailleurs faire les cris de mouette au début et le sifflet à la fin. Donc c'est vraiment une prise studio, un petit peu comme si vous y étiez. On va se quitter là-dessus. Et puis, on lui souhaite... une belle mort, je ne sais pas comment on dit ça, une suite en tout cas avec tous les musiciens qui l'ont précédé là-haut.
Sitting at the dock of the bay, take one.
Sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay,
watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia. I headed for the Frisco Bay. I've got nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing is gonna change. Everything still to say the same. I can't do what 20 people tell me to do, so I guess I remain the same. Sitting here alone, alone. All this loneliness won't leave me alone. 10,000 miles from home, oh, just to make this dock my home. So on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time.
Voilà une prise qu'ils n'auront pas gardée, vous l'aurez compris, il s'est trompé dans les paroles et visiblement c'était pas le roi du sifflet. Allez, so long Steve Cropper.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.